marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut toujours qu'il y ait une petite part de mystère dans l'histoire, sinon ça vaut pas la peine d'en faire.
Comment les Français se représentaient-ils la France au Moyen-Âge ?
Dans cette vidéo, tu vas voir deux techniques utiles pour mémoriser une carte en géographie. Prenons l'exemple d'une carte d'Europe. Associer le pays à une image ou à ses pays frontaliers est une technique efficace pour mémoriser une carte. De façon très personnelle, j'associe la Croatie et la Bosnie-Herzégovine à un Pac-Man en train d'avaler un fantôme. Une fois cette association faite, il est simple de replacer ces deux pays au bord de la mer Adriatique. La deuxième technique que j'utilise pour mémoriser une carte en géographie est celle que j'appelle la technique du petit pousset. Il vous faudra tracer un itinéraire sur la carte à apprendre. Ici, j'ai choisi de partir de la Corse au sud pour aller en direction de la région du Grand Est. Je suis constamment le même itinéraire pour bien mémoriser la carte.
Ah, la carte. Sans doute s'est-elle imposée en France plus tardivement que dans certains pays voisins comme l'Italie. En tout cas, l'usage s'en perd peu à peu aujourd'hui. Enfin, du moins, l'usage de la carte topographique classique. L'automobiliste utilisant de plus en plus le GPS. Il se figure une France plate, comme son écran. Et il enregistre moins les distances que le temps mis à les parcourir, ce qui au fond est assez médiéval. Il sait qu'il lui faut peu d'heures pour aller de Lyon à Paris par l'autoroute et il avance un peu à l'aveugle, éclairé seulement de temps en autre par des panneaux du genre « Le Morvan, ses châteaux, ses clochers ». Il n'est pas sûr que notre perception de l'espace soit beaucoup plus précise que celle de nos aïeux. La carte, c'est une image mentale disposée sur un papier qui nous aide à habiter un pays. Mais quelles images mentales habitaient les esprits du Moyen-Âge ? Ils ne pensaient évidemment pas la France comme un hexagone, mais alors comme un carré, un cercle, un losange peut-être. Ils la voyaient en tout cas comme une juxtaposition de pays. Mais comment se définissaient ces pays ? En opposant les vertus des uns au ridicule des autres. Il ne pouvait y avoir de Bretons sages, puisqu'on n'a jamais vu de poussins gras. Les couilles des Lorrains leur tombaient des braguettes jusqu'aux chaussettes. La production de chaque pays comptait aussi beaucoup. Ainsi, la Brie, c'était, depuis le XIVe siècle, le fromage. Il n'y avait pas de quoi se vanter exagérément, mais enfin, c'était déjà mieux que d'offrir seulement des raves et des navets, comme un certain nombre de régions défavorisées. On était heureux en France à la mesure de la fécondité de son pays. Les dignités diverses qu'il pouvait collectionner l'embellissaient aussi. Mais s'il y a de beaux pays fertiles en France, cela veut-il dire que nos aïeux du Moyen-Âge étaient déjà sensibles au paysage ? Cette qualité leur a été longtemps refusée. Qu'en est-il ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Des réponses ou des esquisses de réponses avec Léonard Dauphan. Bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Un livre chez Champvallon sur le royaume des quatre rivières. Vous nous expliquerez ce que c'est dans un instant. Et puis un autre intitulé « Géographie ». Comment il se représentait l'espace français de 1100 à 1600, toujours chez Champvallon. Champvallon, c'est où ?
Champvallon, c'est à Césérieux. C'est au pied du Grand Colombier dans le Bugey.
Dans le Bugey. Le Bugey, ça a toujours été en France ?
Oh non. Ah non, c'est Henri IV qui intègre des petits morceaux de Savoie à la France.
1601.
1601, oui. Les écoliers apprenaient ça avant. 1601. Parce qu'avant, la France, elle était définie par quatre rivières. C'était l'Escaut, la Meuse, la Saône, le Rhône.
Ah.
Et donc, d'un côté de Lyon, on était dans le royaume, et de l'autre côté, on était dans l'Empire.
Les rivières. Figurez-vous qu'on a écouté il y a un instant le jeu des 1000 euros qui se déroulait en Bretagne. Le jeu des 1000 euros, on a tendance à dire que ça existe depuis la plus haute antiquité, ça remonte au moins au Moyen-Âge.
Chers amis, bonjour !
Bonjour !
À côté de Vannes, la commune de Plérin se trouve au nord du golfe du Morbihan. C'est une petite mer intérieure, ce golfe du Morbihan, qui, dit-on, renferme autant d'îles et d'îlots que de jours dans l'année. En tout cas, elles sont nombreuses, certaines minuscules, ces îles. D'autres plus notables, les plus connues étant sans doute l'île aux Moines et l'île d'Ars. Il faut le dire, Plérin est idéalement situé proche de la voie express Nantes-Brest. Première question bleue de Jacques Mulot à Saint-Étienne. Question envoyée sur Internet. Quel est le fleuve qui traverse la ville de Verdun? Oui.
La Marne.
Ce n'est pas la Marne, Verdun.
À la Meuse.
Oui, c'est la Meuse à Verdun. Oui, Verdun est sur les bords de la Meuse et dans le département de la Meuse, d'ailleurs.
Pile poil la question, il y a quelques instants, de monsieur Jacques Mulot de Saint-Étienne sur la Meuse. Alors, quatre rivières, vous répétez ?
L'Escaut, la Meuse, la Saône et Rhône.
Mais ça, ça circonscrit vraiment le royaume de France, parce que entre la Meuse et l'Escaut, il y a pas mal d'espace. Hein. Entre la Saône et la Meuse, il y a un peu d'espace.
Un petit peu de Vosges, oui.
Ouais.
Et oui, mais ce sont des idées. Ce sont des idées, c'est une liste facile à apprendre, c'est une liste qui est facile pour moi à expliquer, et ça permet aux gens d'apprendre leur pays, justement sans carte. Ça leur permet de se forger une espèce d'image dans leur tête, une image mentale, qui est en même temps une définition qui devient un mot. La France, c'est le royaume des quatre rivières, les quatre rivières, c'est la France. Alors évidemment, ensuite, entre les rivières, il y a de la marge. Et il peut y avoir des problèmes politiques, mais ça permet vraiment d'avoir une définition qui soit facile à retenir. C'est la même chose que l'hexagone, en fait. Évidemment, la France actuelle ne ressemble pas vraiment à un hexagone, mais ça permet de donner une définition avec laquelle on peut vivre.
Mais votre royaume des quatre rivières, là, qu'on veut faire remonter, au fond, au passé carolingien,
ah oui.
Verdun,
traité de Verdun.
Verdun, 843, ça a la forme de quoi ? Vous dites d'un losange ?
Ça a la forme de rien du tout. Mais à partir du XVe siècle, les gens écrivent leurs impressions, ce qu'ils ont dans la tête, et ils disent que ce royaume a la forme d'un losange. Alors, un bout du losange est au bout de la Bretagne, à la pointe de Saint-Mathieu. Un bout du losange est en Flandre. Un bout du losange est à Avignon ou à Lyon. Un bout est dans le Pays Basque, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et dans l'esprit des voyageurs, ça forme une forme géométrique parfaite. Évidemment, ce losange, il a des axes. Et ces axes, c'est un temps de parcours. Dans un grand bout du losange, sur le grand côté du losange, on met 18 jours. Et on peut résumer la France à 18 jours de traversée, d'un côté, 12 jours de l'autre.
Mais image pour image, moi, j'en étais resté à celle qu'auraient pu avoir les gens du Moyen-Âge, un rond qui s'élargit à partir de l'Île-de-France, ou bien, autre interprétation, à partir de l'influence grandissante d'un roi puissant.
Alors, on a ces images de rond et de carré, mais on a surtout à ce moment un discours qui est un discours sur la France. À l'époque, en fait, on a le royaume des quatre rivières, qui a peut-être souvent une forme de losange, et on a la France tout court. Et la France tout court, c'est effectivement le pays du roi, autour de Paris, et c'est un pays où on se sent français relié au roi. Et petit à petit, ce pays s'agrandit à la taille du royaume. Il y a quand même des Bretons qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, hein, et qui diront qu'ils sont dans le royaume de France. Mais ils ne sont pas exactement français.
Enfin, vous avez fait plaisir aux Bretons en parlant d'envahisseurs. Vous dites le jeu des 1000 euros, c'est pas un jeu du Moyen-Âge, c'est un jeu du XVIe siècle, parce que c'est à partir du XVIe siècle, par exemple, qu'on a aimé faire des listes de rivières.
En fait, on en a fait dès la fin du Moyen-Âge, quand on a commencé à écrire cette géographie populaire, orale, mentale. Et au XVIe siècle, les humanistes qui ont mis en place l'enseignement moderne s'en sont emparés pour des besoins scolaires. Et à ce moment-là, on voit des sortes de manuels où on apprend des listes de rivières. Et ça, ça va durer jusqu'à la Troisième République et encore au-delà. J'en ai appris quand j'étais petit.
Et la rivière, c'est l'extraordinaire séparateur. Il n'y a pas mieux comme séparateur.
Dans les esprits, oui. Dans la tête, quand on se figure un pays, on peut le borner avec des rivières. La France, ça va jusqu'à la Meuse. Mais en fait, dans la vraie vie, quand on est au bord de la rivière, c'est d'abord une formidable route qui permet de relier toutes les villes, parce que tous les centres urbains sont sur les rivières. C'est l'endroit où on peut transporter des matières lourdes. La rivière, c'est d'abord un endroit qui porte des bateaux, donc ça relie les gens, et c'est seulement dans la tête des gens que ça fait frontière.
Et il y a d'autres types de bornes au Moyen-Âge ?
Oh, il y en a énormément. En fait, on est dans un monde qui se construit au niveau des villages, donc chaque seigneurie a ses bornes. Chaque seigneurie est précisément délimitée, et à partir du XIIIe, XIVe, chaque paroisse devient fixe. De temps en temps, on retrouve dans nos sources des limites entre deux villages qui n'ont pas bougé depuis 700 ans. Et c'est ensuite, quand le roi de France construit son pouvoir, qu'il va essayer de faire en sorte que son royaume soit aussi bien défini qu'un petit village. Mais le borner, c'est trop compliqué pour lui, évidemment.
Alors, vous pourriez parler à l'infini des routes, il y aurait un livre à faire.
Chiche.
Il y a un réseau routier un peu modernisé pendant le XIIe, XIIIe siècle, au moment de la grande transformation économique. Bon, au XVe, qui vous intéresse souvent particulièrement, il n'y a pas vraiment de grande création de routes, si.
Non, mais le XIIe, XIIIe, c'est une formidable expansion économique. C'est la construction d'une infrastructure gigantesque. On en a gardé quelques petites traces visibles et touristiques, le pont d'Avignon, où on danse. Mais les grandes routes nationales sont souvent tracées sur des itinéraires médiévaux. La nationale qui passe par Provins, à côté de Paris. Pourquoi elle passe par Provins ? Parce que c'était le cœur des foires de Champagne. On a énormément construit au XIIe, XIIIe. Ce qui fait qu'on a mis en place à ce moment-là un réseau totalement neuf, que les gens du Moyen-Âge, en fait, n'ont pas vraiment valorisé, parce que dès qu'ils voyaient une belle route, ils disaient « c'est une voie romaine ». Mais souvent, la voie romaine, en fait, elle avait 50 ans. Et c'était une route qui allait de foire médiévale en foire médiévale.
Oui, mais au-delà des routes, là où les chemins commencent, là où les chemins se perdent, nous sommes en Sologne dans un instant, là où il faut des guides, on est dans le brouillard, 14e siècle, vous savez, un des grands héros du 14e siècle, au milieu du 14e siècle, c'est Thierry Lafronde, bien sûr.
Nous avions un guide. Il a dû servir de repas aux renards et aux loups.
Vous restez sans guide ?
Oui.
C'est dangereux en Sologne. Si vous connaissez pas les marécages, hein ? Moi, je connais. Je connais un brave homme qui accepterait peut-être.
Est-ce qu'il est intelligent ?
Ah oui ! C'est mon frère !
Alors il fera l'affaire, dis-lui de venir.
Nous approchons des marécages, va falloir être prudent. Ah, voyons, le monastère est là. Bon, le petit pont est là. Bon. Donc nous sommes là. Alors en allant par là, alors par là.
Tu as bientôt fini ?
Oui, ça y est, mon ami, ça y est.
Alors, où allons-nous ?
À droite, à droite.
Monseigneur !
Que se passe-t-il ?
Je ne sais pas, monseigneur, mais nous sommes déjà passés ici tout à l'heure.
C'est vrai, explique-toi, l'ami.
Mais jamais de la vie ! Vous savez, monseigneur, tous les coins de la Sologne ressemblent.
Mais regardez, monseigneur, voici trace des chevaux et des hommes.
Alors, explique-toi.
C'est vrai, je me suis trompé. J'ai tourné en rond. Pardonnez-moi, monseigneur, mais maintenant je sais où je suis.
Bon, je te pardonne. La prochaine fois, s'il se trompe encore, égorgez-le.
De l'importance d'avoir des cartes, mais les cartes terrestres au Moyen-Âge, en France, c'est quand ?
En fait, on en a qui représentent quelques petits villages, qui apparaissent dès le XIVe siècle, mais des cartes qui serviraient à usage pratique, il faut attendre en fait le XVIIIe siècle. Et donc ce qu'on a, surtout à l'époque, ce sont des cartes qu'il ne faut pas apprendre, parce qu'il faudrait se mettre la carte dans la tête. C'est plutôt des images mentales qu'on va dessiner comme des cartes. Ça ne sert pas à retrouver le chemin des marécages.
Et alors comment nomme-t-on les pays qu'on a ainsi identifiés selon des images mentales ? Vous insistez sur le rôle de la production de chacun des pays. Alors je sais que vous enseignez à Metz, donc les Lorrains ont des couilles qui descendent de la braguette aux chaussettes.
Ça, c'est pas une production, mais oui, c'est un stéréotype. Stéréotype qui, évidemment, se retrouve dans la bouche des autres. Il y a les productions, il y a l'apparence des gens. Parce qu'un pays, c'est d'abord l'endroit où on vit. Ça se définit comme ça. Chacun a son pays, c'est-à-dire un point de vue sur son environnement.
Et donc, qu'est-ce qu'ils produisent, les Lorrains ?
Alors, à l'époque, l'idée qu'on a à propos de Metz, c'est la banque. Metz est un centre d'affaires, et donc on a un proverbe « usurier de Metz ». Les financiers messins, ils sont célèbres de partout, comme les financiers de Cahors. Et sinon, il y a d'autres régions qui sont connues pour ce qu'on mange, soit parce qu'on l'exporte. Le vin de Beaune est connu dans l'Europe entière, soit parce qu'on n'a pas envie d'en manger. Les raves et les navets, c'est produit en
Auvergne. C'est où ça,
les
raves et les navets ?
C'est produit en Auvergne et en Limousin. Et donc les gens hors Auvergne et Limousin se moquent des Auvergnats en disant que ce sont des mâches raves. Et manifestement, le mâche rave a une odeur assez forte. Et c'est quelque chose qui colle à la peau.
Et les vins, il y a les bons crus, de Beaune à Saint-Pourçain, et puis d'autres qui sont beaucoup moins bons, non ?
Parmi les géographies qu'on a, qui circulent à partir du XIIIe siècle, c'est peut-être la géographie qui a le plus de noms. Les noms de bons vins, les noms de mauvais vins. C'est vraiment quelque chose de très précis parce que quand on voyage, on découvre le vin local, celui qui n'est pas exporté, donc ça peut être une bonne surprise, ça peut être une mauvaise surprise. Et puis il y a les vins qui circulent, et ceux-là, ils sont connus de tout le monde. Les vins de Beaune, on en trouve partout.
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et maintenir la table pleine de cervelas et de jambon. L'eau ne fait rien que pourrir le bon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le bon. Boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Le vin goûté à ce bon père qui s'en rendit si bon garçon, nous fait discours sans grammaire et nous rend sa femme sans leçon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Poumon, boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Poumon, boute, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Léonard Dauphin, la représentation que les Français se font de la France, à partir de deux livres qu'il a publiés aux éditions Champvallon. Alors il y a les pays du vin, du bon vin et du vin médiocre. On va pas parler des pays de l'eau qui corrompt les poumons, chantait Triane il y a un instant. Il y a les pays de la bière. Les pays se désignent par leur production.
Les pays se désignent par leur production et les gens se désignent parce qu'ils boivent. La Bretagne, par exemple, c'est formidable. Évidemment, les pauvres boivent de l'eau. Et de temps en temps, ils prennent la parole pour dire « notre eau a de la valeur ». Mais la plupart des gens, dans ces pays de l'Atlantique, de la Manche, boivent de la bière. Et ça devient leur boisson presque identitaire. Ils se définissent par la bière face au pays du vin. Mais ensuite, quand ils ont un petit peu d'argent, qui a une grande occasion, ils boivent du vin. Parce que le vin, c'est non seulement un symbole local, mais c'est aussi un symbole de la grande culture. Ce qui fait que ça devient très rapidement, dès le XIIe, XIIIe siècle, un symbole de la France. Accéder au vin, c'est faire partie d'une culture générale, d'une haute culture.
Oui, la France, je sais, vous insistez beaucoup là-dessus, elle a une représentation exceptionnelle d'elle-même. Enfin, il y a une structure étatique assez exceptionnelle en Europe. Votre livre, le dernier, Géographie au pluriel, ce qu'il savait de la France. Et vous avez changé le titre, ce que les Français savaient de la France. Mais au XIVe, XVe siècle, ils avaient le sentiment d'être Français.
Ça dépend qui. C'est pour ça qu'il faut faire des cartes. C'est pour ça qu'il faut se demander qui avait le sentiment d'être Français. Alors les gens autour de Paris, oui, évidemment. Les Picards aussi, parce que c'est une vieille terre royale. Même chose dans le Val-de-Loire. Mais les Bretons, les Lyonnais, les Occitans. Ça, c'est une vraie question au XIVe siècle. Il y a des débats dans chacune de ces régions. On voit progresser très 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 lentement le sentiment soit d'appartenance à la France, soit de fidélité au roi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de régions, les deux sont différents. On peut être fidèle au roi de France, mais par exemple les Normands diront, nous obéissons au roi de France parce qu'il est duc de Normandie. Nous sommes d'abord Normands et ensuite nous sommes Français.
Votre nom vient d'Auvergne. Alors, Dupuy-en-Velay, on dit qu'il est en Velay. Et le Velay, ça dépend, dans l'organisation administrative royale, d'une sénéchaussée.
C'est le Languedoc.
Beaucaire.
C'est une partie du Languedoc.
Dans le Gard actuel. Oui, mais on dit le Puy-en-Auvergne.
Eh oui. Ben, ça dépend de quel point de vue on est. À Clermont-Ferrand, quand on regarde la grande route qui va vers le sud, en fait, qui va vers la mer, et qui passe au puits, on se dit bah, c'est la limite de l'Auvergne. D'un point de vue administratif, c'est en Languedoc.
Ça dépend aussi de la position sociale qu'on a. Un officier va faire référence au bailliage, au maillage de la monarchie.
À la juridiction.
Un clerc va dire que le puits, c'est le chef d'un diocèse.
Oui, c'est une diocèse du Velay. Par contre, effectivement, celui qui fait du commerce, ou paysan qui va vendre ses bœufs au marché, il s'intéressera peut-être à la vie de relation entre le puits et l'Auvergne. Il dira, bah oui, on est en Auvergne.
Et les gendarmes vont faire référence à la ville.
Sans doute, oui, ils y seront en garnison.
Mais les paysans, à leur paroisse, à l'immédiateté de la paroisse, nous sommes en pays occitan, près de Carcassonne, avec Claude Marty.
Si tu veux que ce pays te dise qui il est, sur quoi tu marches, tout ça, tu vas l'avoir en occitan. Si tu leur demandes quel temps il va faire demain, ils te le diront toujours en occitan, parce que les proverbes météo sont toujours en occitan. Si sur la Larique et Zescur, pays Jacques Foulin de Ségur, sur la montagne de Larique, c'est chargé, tu vas avoir la pluie à Foulin, certainement. Tu as tous les proverbes qui qualifient les gens des villages. Par exemple, les voisins disent Coufoulens, monastères, méchantes gens. Coufoulens, monastères, mauvaises gens. Ce que nous contestons terriblement. Et on leur retourne, par exemple, aux gens du village de Poma. Le proverbe est à Poma, il va une cope, il tourne se passe. À Poma, tu vas une fois, tu n'y reviens jamais.
Nuit magnétique, France Culture, Alexandre Hérault. Ah oui, alors, il n'y a que les habitants de Coufoulens qui savent que leurs voisins de Poma sont idiots, quoi.
Oh non. Tout le monde le dit. Le problème pour nous historiens, c'est de retrouver des proverbes comme ça qui puissent être écrits.
Parce que là, Claude Marty, il cite des proverbes usités depuis le 19e siècle et transmis oralement. Mais est-ce que d'après vous, ça peut venir de beaucoup plus loin?
Ah, sans doute. Le problème, c'est que les proverbes de Confolens, ils ont peut-être 1000 ans, mais on ne peut pas le savoir. Et ce qu'on voit dans les textes médiévaux, ce sont des proverbes à propos des grands centres urbains, mais qui sont exactement les mêmes. Les fainéants de Verdun, les coureurs de jupons de Rouen, de ville en ville, on s'adresse des amabilités, exactement sur le même mode que les villages au XIXe siècle. Il y a un lien entre les deux, c'est certain.
On peut être savant, là. On dit que ce sont des ethnotypes.
Ce sont des ethnotypes, oui, des stéréotypes de différentes régions. On peut en trouver dans la littérature médiévale. J'ai essayé d'en faire des listes. J'en ai trouvé une centaine d'ethnotypes différents dans 24 régions, dans 200 œuvres de la littérature médiévale. Et ça montre que les gens circulent d'une région à l'autre. Ils ont des opinions sur leurs voisins. Elles peuvent être sympathiques, elles peuvent être sarcastiques, mais les gens ont des relations très profondes.
C'est avec un matériau carnavalesque que peut se construire l'unité.
Oui, c'est parce que c'est la vraie vie des gens qui aiment se moquer. Et donc, on va acheter un fromage de brie tout en envoyant une petite pique au marchand briard. Et on va ramener à la fois un bon fromage et une connaissance sur le territoire. C'est comme ça que se construit le pays.
Vous parlez du rôle des œuvres de la littérature que vous analysez assez longuement dans Géographie, ce qu'il savait de la France. Je ne sais pas, moi, Ganelon, par exemple, la chanson de Roland. Mais Ganelon, il est partout, vous dites.
Le traître.
Il y a le corps de Roland dans les armoiries de la ville du Vésinet. Alors, quel est le rapport du Vésinet avec Roland et Ganelon? Et pourquoi Ganelon a-t-il tant de châteaux jusque dans l'Île-de-France?
Alors, le corps, c'est le corps, oui, qui lui sert à sonner du corps. Mais le problème, c'est que les épopées, les chansons de jazz se sont passées dans le sud de la France. Alors les gens du Nord, ils n'ont pas le tombeau de Roland. Il est à Breuil, en Gironde. Et donc, ils se construisent des légendes qui émergent, qu'on voit émerger comme ça dans toute une série de lieux. Au Vésinet, par exemple, il y avait un bois maudit parce que Ganelon avait trahi Roland dans le bois du Vésinet. C'est le bois qui a été loti, qui a donné la commune actuelle, pour ceux qui connaissent. Et donc, dès qu'on jette une branche dans la Seine, la branche coule. Quel que soit l'artifice qu'on utilise. Et ça montre bien que c'est l'endroit du traître. Et donc vous avez comme ça des légendes qui servent à peupler le paysage, à constituer une espèce d'arrière-fond épique à toute la France du Nord.
La matière de Bretagne, on l'a transférée d'une île du Nord à la Bretagne. Mais la forêt de Brocéliande, on a l'impression quand même qu'elle a des pseudopodes un peu partout. Allez, une lecture, Lancelot dans la forêt.
Le soleil, déclinant, dardait ses rayons obliques qui élargissaient leurs flaques sur le sol moussu, les troncs qu'animaient leurs tremblements lumineux, prêtant ainsi à l'écorce une tendre pulsation. Bientôt, il lui faudrait penser à l'étape. Le bourdon baissa de ton. Les chants d'oiseaux se turent ou s'éloignèrent vers les cimes pour suivre la chute de l'astre d'adieu qui se prolongerait jusqu'au crépuscule. Non loin de là devait se trouver un petit village de charbonniers, groupé autour des fours ronds, où ils préparaient ce qu'ils transportaient ensuite à dos d'homme vers la grande voie. Là, des marchands passaient avec des chariots, et une longue discussion commençait sur le bord de la route pavée, ouvrage des Romains. Attirant les badauds, les voyageurs là, heureux de trouver une compagnie et quelques réconforts, pour une halte qui pouvait durer des heures, chacun ayant quelque aventure à raconter. À la nuitée, un feu allumé réchauffait tout en permettant de cuire les aliments et guidait les passants éloignés qui se joignaient au groupe.
Vous avez noté, chez Chrétien de Troyes, route pavée, tiret, ouvrage des Romains, tiret. Là, il se dessine un paysage.
Un beau paysage de forêt, oui, traversé par une route. Pour nous, on est sensible d'abord à ce qu'on voit quand on est en voiture, on traverse à toute vitesse, on peut imaginer cette forêt avec les arbres qui défilent. Évidemment, quand ils marchent et puis qu'ils s'arrêtent et qu'ils discutent, ce que les voyageurs du Moyen-Âge perçoivent d'abord, en fait, ce sont des sons. C'est d'abord une musique, et ils nous disent, marcher c'est fatigant, mais le chant des oiseaux, c'est le réconfort du voyageur et ça permet d'aller plus loin. Et pour eux, le paysage c'est d'abord sonore. C'est une ambiance dans une campagne, dans des forêts qui étaient pleines de vie, pleines d'animaux, qui n'étaient pas polluées non plus par les moteurs. Et donc quand on marche à pied, pendant des kilomètres et des kilomètres, pendant des heures, on est d'abord immergé dans une ambiance sonore.
Parce que nous, on a tendance à dire le paysage, ça date de la peinture. Enfin, on oublie que la chambre du pape, dans le palais d'Avignon, il n'y a que des oiseaux.
Oui. C'est un paysage sonore mis en peinture, et c'est le début du moment où on se met à peindre le paysage au XIVe siècle. Et donc finalement, toute la richesse du paysage médiéval, on va, nous, la concentrer dans la peinture, et à la fin, on va finir par se dire, le vrai paysage, c'est comme en peinture. Le vrai paysage, c'est d'abord la réalité du terrain. Et ce terrain, ce sont des odeurs, ce sont des sons. Et ça, c'est la poésie du Moyen-Âge qui nous révèle. Les troubadours, pour eux, créent un paysage qui est d'abord sonore, c'est l'éveil du printemps avec les oiseaux.
Chrétien de Troyes parle du chant des oiseaux. Fulbert de Chartres, au voyageur, le chant du rossignol donne une compensation à ses peines. C'est-à-dire que le paysage, c'est d'abord un concert.
C'est d'abord un concert, oui. Ce qui fait quelque chose de très étonnant, quand les oiseaux se taisent, les gens du Moyen-Âge éprouvent une véritable angoisse. Pour une raison ou pour une autre, les oiseaux ne chantent pas, ils se sentent perdus. Le vrai paysage, c'est vraiment être immergé là-dedans.
Saint François d'Assise, l'opéra de Messiaen, le chant des oiseaux. Oui, mais vous dites aussi la beauté, c'est la fertilité.
Oui, mais ça va avec. Les oiseaux, ils nous montrent une campagne qui grouille de vie. Et à l'époque, l'exploitation de la terre ne contredit pas la biodiversité. Et donc, ce que les gens aiment, c'est une campagne fertile, parce que la fertilité, c'est le pays avec ses productions, le fromage de Brie, par exemple.
Et ça, ça vous tient à cœur.
Il y a vraiment un lien, en fait, entre la belle campagne, la bonne vie, et puis la nature en bon état. Rien ne s'oppose en fait à cette époque.
Et c'est ce qui donne au beau paysage le mérite d'attirer les dignités, parce que c'est ça aussi qui les caractérise. Géographie, ce qu'ils aimaient de la France, et puis peu avant, toujours aux éditions Champvallon, le royaume des quatre rivières. Merci à vous, Léonard Dauphan.
Merci.
L'émission a été préparée par Frédéric Martin. avec Anna Massardier, Ilinka Negulesco. La réalisation, c'était Audrey Ripouille. Et à la technique, Jérémy Guillon.